Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de « La splendeur et l'infamie » de Eric Larson, lu par Yves Aubert. À David Woodrum, pour des raisons secrètes. Il n'est pas donné aux êtres humains, heureusement pour eux, sans quoi la vie serait intolérable, de prévoir ni de prédire dans une large mesure la tournure des événements en cours. Winston Churchill, éloge funèbre de Neville Chamberlain, 14 novembre 1940. Avis au lecteur. Ce n'est qu'après m'être installé à Manhattan, il y a quelques années, que j'en suis venu à comprendre, avec une clarté soudaine, combien les New-Yorkais avaient vécu l'expérience du 11 septembre 2001, différemment de tous ceux d'entre nous qui ont été témoins de ce cauchemar à distance. C'était leur ville qu'on attaquait. Cela m'a fait presque immédiatement penser à Londres et à la campagne aérienne allemande de 1940-1941. Et je me suis demandé comment il avait été possible de la supporter. 57 nuits consécutives de bombardements, prolongées par une succession de raids nocturnes de plus en plus intenses dans les 6 mois suivants. J'ai pensé en particulier à Winston Churchill. Comment a-t-il tenu le choc? Et sa famille, ses amis? Qu'a-t-il pu ressentir en voyant sa ville bombardée nuit après nuit et en sachant pleinement que ces raids aériens, aussi terrifiants soient-ils, n'étaient sans doute qu'un préambule avant quelque chose de bien pire? Une invasion allemande venue de la mer et du ciel, avec des atterrissages de parachutistes dans son jardin, des cliquettements de Panzer sur Trafalgar Square et des nappes de gaz toxiques au-dessus de la plage où il avait naguère peint les flots. J'ai décidé de le découvrir. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que si dire « on continue » est une chose, le faire est une autre paire de manches. Je me suis concentré sur la première année de Churchill à la tête du gouvernement, du 10 mai 1940 au 10 mai 1941, qui a coïncidé avec l'évolution de la campagne aérienne allemande inaugurée par des raids sporadiques, apparemment sans but précis, vers une agression en règle de la ville de Londres. L'année s'est achevée sur un week-end d'une violence digne de ce que décrit Vonnegut dans Abattoir 5, pendant lequel le quotidien et le fantastique ont convergé pour signer ce qui révélait être la première grande victoire de la guerre. Ce qui suit ne se veut en aucun cas un récit définitif de la vie de Churchill. D'autres auteurs ont atteint ce but, en particulier son biographe infatigable, mais hélas non immortel, Martin Gilbert, dont l'ouvrage en 8 volumes renferme une quantité de détails propres à satisfaire les besoins les plus exigeants. Le mien est un récit plus intimiste, qui explore la façon dont Churchill et son premier cercle s'y sont pris pour survivre au quotidien. Les moments sombres et légers, les imbroglios sentimentaux et leurs déboires, les chagrins et les rires, et les petits épisodes insolites qui révèlent comment la vie a été réellement vécue sous la tempête d'acier hitlérienne. C'est l'année où Churchill est devenu Churchill, le bulldog au cigare que nous pensons tous connaître, qu'il a prononcé ses plus grands discours et montré au monde à quoi pouvait ressembler le courage et les qualités d'un dirigeant. Malgré l'impression qu'il peut parfois donner, ce livre est un travail de non-fiction. Tout ce qui figure entre guillemets est tiré d'une forme quelconque de document historique, qu'il s'agisse d'un journal intime, d'une lettre, de mémoire ou d'un quelconque autre support. Chaque référence à un geste, à un regard, à un sourire ou à une réaction faciale, quelle qu'elle soit, provient du récit de quelqu'un qui en a été le témoin. Si quelque chose dans les pages qui suivent contredit ce que vous croyez savoir de Churchill et de cette époque, qu'il me soit juste permis de dire que l'histoire est une demeure animée, pleine de surprises. Eric Larson, Manhattan, 2020. Sombre perspective. Personne ne doutait de l'arrivée des bombardiers. La planification de la défense avait commencé bien avant la guerre, même si les planificateurs n'avaient aucune menace spécifique en tête. L'Europe était l'Europe. S'il y avait un quelconque enseignement à tirer du passé, c'était qu'une guerre pouvait éclater n'importe où, n'importe quand. Les autorités militaires britanniques voyaient le monde à travers le prisme de l'expérience impériale durant le conflit précédent, la Grande Guerre, avec ses massacres de soldats comme de civils.